bonjour et bienvenue au Wine News Club, le podcast dédié qui va donner un peu plus en alternative ce soir.
Bonsoir, bonsoir à vous, poditeurs. Bonsoir, Xavier. Je reçois ce soir Xavier Gilbert, on prononce ? Je ne sais pas, en fait.
Oui, on prononce le L.
On prononce le L. Voilà, je me fais avoir sur les prononciations. Déjà, avec Vendrieux, j'avais eu du mal. Donc, c'est Xavier Gilbert, que tu es rédacteur en chef du site duneuf.org. Qui a un site qui s'intéresse à la bande dessinée indépendante principalement, même si on verra sans doute dans l'émission qu'il y a des choses qui se situent un peu entre les deux, et qui essaye de faire des analyses assez poussées sur ces sujets, ce que je trouve assez intéressant parce que ce n'est pas que de la critique, c'est aussi de l'analyse. Donc, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur toi, c'est vachement difficile, parce que grâce à Wikipédia, j'ai appris que tu avais repris du neuf, et que du neuf était à la base un fanzine papier, que je ne connaissais pas. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur du neuf, et est-ce que tu avais une activité dans le milieu de la bande dessinée avant ça?
Moi, je me suis retrouvé sur du neuf... Début 98, je dirais. En fait, que tu ne connaisses pas le fanzine papier, c'est à peu près normal parce que c'était un fanzine papier de la bonne époque, imprimé à la photocopieuse, relié avec les agrafes, hein, et distribué à 50 personnes à la Fnac Montparnasse par JCB. Et moi, je me suis retrouvé à rejoindre du neuf tout à fait par hasard. À l'époque, je lisais beaucoup de comics, très peu de bandes dessinées indépendantes, en fait. Et il y avait eu pas mal de discussions dans sur Usenet, sur FRAB, FRREC Art BD, qui est un vieux truc qui n'existe plus du tout aujourd'hui ou qui est complètement mourant. Et il y avait pas mal de discussions autour des comics, est-ce qu'il fallait faire un forum spécial pour discuter des comics, etc. Et je faisais partie des petits cons qui voulaient faire ces sessions et parler des comics dans leur coin. Et j'ai rencontré Greg, qui s'occupait alors de Duneuf, et c'est lui qui m'a fait voir la lumière. De manière très pratique, en fait, moi, j'étais en transit pour le Japon, parce que j'ai habité là-bas pendant 5 ans, et en fin 97, début 98, j'ai eu un bête problème de visa qui m'a coincé à Paris pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, je me suis retrouvé à aller chez Greg quasiment toutes les semaines, et à repartir chaque fois avec une pile d'une vingtaine ou d'une trentaine de bouquins. C'est comme ça que je me suis fait mon début de culture indépendante.
Ah, ça explique pourquoi est-ce que tu m'as parlé d'autant de choses japonaises inconnues, et que tu parles pas mal de trucs japonais. Donc tu parles japonais, tu lis le japonais.
Je parle japonais, je lis, je me bats avec la lecture du japonais.
Ouais, apparemment c'est une autre paire de manches, la lecture.
Oui, ça demande un certain investissement, et puis le temps étant la denrée la plus rare qui soit, en ce moment c'est un petit peu dur d'en avoir.
Voilà. Ouais, parce que donc tu disais donc c'était Grégory Trowbridge, c'est ça, donc qui tout s'occupait du site du neuf, et donc vous avez décidé de passer sur la version numérique, mais lui il était toujours dans du neuf, ou il t'a laissé le bébé avec le nom du fanzine?
Alors, le fanzine était fait par JCB au départ, qui est toujours là, qui est le fondateur, ouais, qui a tenu ça pendant, je sais pas, il doit y avoir une dizaine de numéros. C'était en 96, je crois, ou 95. Et début 97, donc, du neuf passe sur Internet par le biais de Greg. Donc, c'est Greg qui reprend le bébé déjà avec JCB. JCB reste toujours là. Il y a une première équipe. Moi, je rejoins cette équipe-là en 97 ou 98. Et puis, je participe de manière active. Et on était à une époque, c'était la préhistoire du web. Donc, chaque mise à jour était un véritable enfer. Greg, on faisait des nuits blanches. À chaque fois, ça prenait des heures et des heures. Et on a commencé à avoir les prémices du web 2.0 avec le début des blogs, le début de choses tout bêtes comme les CMS, donc tout ce qui permet de gérer du contenu de manière plus facile, sans être obligé d'aller coder à la main les pages comme c'était le cas à l'époque. Et donc là, moi, comme j'étais un petit peu plus technique que Greg là-dessus, c'est moi qui ai pris l'aspect technique. Et jusqu'en 2002, puis il y a eu une période de 2 ans durant laquelle Du9 a quasiment plus existé. On était en ligne, mais en dehors de ça, il n'y avait plus rien qui se faisait. Et c'est vers 2004 ou 2005 où on s'est tous retrouvés en se disant « Bon, ben voilà, ça fait 9 ans que Du9 existe, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue ?» Et puis on a décidé de continuer, et c'est à ce moment-là où j'ai pris vraiment les rênes du truc en étant... en devenant de facto rédacteur en chef. Ça a été un recrutement fait là-dessus, c'est plus par la force des choses que je suis devenu à être celui qui envoie des mails à tout le monde en disant « les gars, il faudrait se bouger », qui relie, qui centralise, et puis voilà, je suis les responsables en chef.
Alors, c'est assez marrant pour un site, c'est qu'il y a une volonté d'avoir quand même des publications régulières. Ça, il y a 3 publications par semaine, en gros, trois critiques, analyses par semaine. En général, les sites ont plutôt tendance à publier quand c'est prêt, l'équipe se met d'accord, tiens, je parlais de ça. C'est assez original, ça se rapproche quand même beaucoup du magazine. Pourquoi cette volonté d'avoir vraiment cette régularité qui est inscrite quand même beaucoup dans du neuf?
Parce que sans la régularité, on ne ferait rien. Non, mais c'est Du9 à la base, c'est un collectif de lecteurs. Ça reste toujours un collectif de lecteurs. On a tous des vies, du travail à côté. Et si on n'a pas cette sorte de couperet qui sort de manière régulière, et si on se contente de mettre un article de temps en temps, très rapidement, il n'y a plus rien qui se met en place. Donc, c'est la contrainte est finalement la seule manière d'avoir quelque chose. Qui tient de manière régulière et qui permet d'avoir un véritable contenu qui se fait. Bon, ça c'est mon type de fonctionnement, hein, mais c'est vrai que ça nous a permis de tenir. Alors bon, il y a des semaines où il n'y a pas d'articles, ou bien il y a moins d'articles parce que simplement on n'a pas d'articles et puis on préfère avoir moins de textes que de passer des choses qui sont pas finies ou pas de qualité qui nous conviennent. C'est ça qui nous permet de tenir. Et puis comme ça fait 15 ans qu'on est en ligne, je pense que la formule fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Avant, au début de Du9, c'était une mise à jour par mois. Donc chaque mois, il y avait une sorte de numéro qui arrivait avec plein de trucs dans le bloc et qui permettait de tenir le mois. Et on est passé sur l'hebdomadaire pour être plus en phase avec le web 2.0 et les exigences des jeunes d'aujourd'hui. Mais ça reste quand même beaucoup de boulot.
Oui, c'est vrai que c'est des articles qui sont souvent un peu denses. Il y avait 12 articles qui arrivaient d'un seul coup, je suis pas sûr que tout le monde prendrait le temps de tout lire, en fait. Parce que sur le web, on n'a pas cette facilité qu'on a avec le magazine de le ressortir d'un côté et de se dire tiens, je l'ai pas fini.
En même temps, on a toujours les archives de l'intégrale de Du9 qui sont présentes. Donc, on a quelque chose comme 1000 ou 1300 pages, je ne sais plus. Donc, ouais. 1300 textes, c'était quand même pas mal. Voilà.
Vous avez intégré toutes les archives de la version papier dans le site ?
Non, pas tout. En fait, même dans la version, les anciennes versions électroniques, on a retiré un certain nombre de choses qui n'avaient plus de raison d'être, des choses qui étaient soit trop à la joke, soit trop liées à une époque particulière, qu'on a mises de côté parce que ça ne servait à rien de l'avoir dans la formule actuelle, quoi.
Il y a un choix aussi de pas s'intéresser à la nouveauté, de s'intéresser aux choses. C'est une volonté d'avoir du recul sur la bande dessinée, de pas tomber dans l'affect, d'essayer d'être vraiment sur l'analytique.
Pas forcément. C'est plus, je pense, il y a la nature de Du9, de l'équipe, je dirais, il y a beaucoup à voir. C'est-à-dire que maintenant, je suis un petit peu plus dans les réseaux des attachés de presse, des choses comme ça. Donc, on m'envoie pas les titres à venir, puisqu'on reçoit pas de service presse et on refuse de les voir. Mais donc, on n'a pas les albums en avant-première, aussi. Donc, nous, moi, je, je fais les boutiques le samedi, et puis j'achète mes bouquins, et puis il faut que je les lise, et puis si jamais ça me plaît, il faut que j'écrive un truc dessus. Donc par rapport au circuit journalistique habituel, déjà on a une ou deux semaines dans la vue. Et puis après, c'est plus par affinité, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses. Je préfère écrire un texte sur lequel j'ai des choses à dire, enfin sur un livre sur lequel j'ai des choses à dire, plutôt que de me forcer à chroniquer tout ce qui sort.
J'imagine que tu lis aussi du mainstream et pas que de l'indé.
Oui, oui.
Oui, mais t'as moins de choses à dire dessus, donc t'en parles pas, quoi.
Ça dépend. Après, tu vois, j'ai écrit un texte sur le Spirou des Mille Bravo. Je pense que plus mainstream que Spirou, on ne sait pas. J'ai fait un truc aussi sur celui de Johann Evelmann, le premier à Légion pétrifiée.
C'était des approches par rapport à Spirou qui, justement, se rapprochaient un peu plus d'une volonté, enfin, peut-être un peu à la mode, même chez les éditeurs mainstream, d'avoir un autre angle de vue et de se rapprocher de l'indé.
Mmh. Oui, après, c'est vrai que j'ai peu de trucs. C'est vrai que je ne vais pas lire du RS ou du 13. C'était un bon moment que j'ai décroché. Ou du Largo Winch, je prends les têtes de gondole parce que les autres j'ai un peu plus de mal. Il y a tout un pan de la librairie qui ne me parle absolument pas. Tu vois, j'étais dernièrement dans une librairie où il y a toutes les nouveautés paquets avec les voitures. C'est leur je sais plus, c'est Calandre qui s'appelle leur collection. Bon, ça me parle pas du tout. Ça m'intéresse pas des masques. Ouais, donc c'est effectivement. Après, on est tous des lecteurs comme les autres. Il y a tout un tas de parties qui n'intéressent pas, dans lesquelles on ne va pas fouiner, parce que bon, ça sert pas à grand chose de s'acharner si jamais ça correspond pas à nos goûts.
Ok. T'as publié dans le magazine il y a peu de temps, dans la revue en ligne Comicalité, donc qui est apparemment une revue de recherche fondamentale sur la bande dessinée, un article sur la légitimité de la bande dessinée. C'est le fait de s'intéresser à de l'indé. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche beaucoup, cette histoire de légitimité? J'ai l'impression que j'ai eu, enfin, j'ai pas encore eu le temps de finir l'article, je l'ai un peu rapidement survolé. L'impression que ça donnait, c'est que tu trouvais qu'on essayait de donner de la légitimité à la BD, mais pas par les bons biais.
Ouais, non, je dirais je suis très intéressé par tout ce qui est le discours autour de la bande dessinée, les idées reçues. Donc j'ai créé aussi un texte dans le monde diplomatique sur le sujet, sur certaines idées reçues sur la bande dessinée populaire.
Oui, celui-là, je l'ai lu.
Voilà, c'était à lui-même la suite, une sorte de prolongation d'une conférence que j'avais donnée à Périscopage, qui était une prolongation d'un article que j'avais fait sur le 19, qui était le premier qui s'appelait Impopulaire. Ouais, je suis intéressé par le discours qu'il y a autour de la bande dessinée. Après, de savoir s'il y a un bon discours ou un mauvais discours, moi, ce que je trouve intéressant de voir comment ce discours se met en place. Je continue effectivement à penser que les biais sont peut-être pas les bons, dans le sens où on parle rarement de la bande dessinée pour elle-même. Même dans le cas d'un Persepolis, par exemple, sur lequel il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, on va parler beaucoup plus de l'histoire et non pas de la narration. On va parler de ce que c'est que de grandir en Iran, ce que c'est que de vivre avec la révolution, etc., le chat et tout, du parcours de Marjane Satrapi, mais pas du tout de la bande dessinée ou de ce en quoi l'œuvre de bande dessinée a une valeur en elle-même.
Et en quoi est-ce que c'était plus, en quoi est-ce que ça avait de l'importance que ce soit de la bande dessinée et pas un roman, un film ou autre chose?
Oui, ou même le style, simplement le fait qu'elle utilise un style très particulier qui soit référencé avec une tradition picturale particulière. Comment est-ce qu'elle se représente? Comment est-ce qu'elle met en scène les dialogues entre elle-même à différents âges, etc. Comment est-ce qu'elle revisite les mêmes lieux et comment est-ce qu'ils évoluent dans son dessin? Il y a plein de choses à dire sur la spécificité de la bande dessinée qui est rarement touchée.
C'est pas, enfin moi l'impression que ça me donne, c'est un peu, c'est-à-dire c'est cette approche aussi qui assure le cinéma entre l'analyse du film qui va essayer de comprendre pourquoi tel choix a été fait, qui va en général plus s'intéresser à des films qu'on va dire un peu intello, hein, donc les films indés, les trucs qu'on va plus retrouver dans les cahiers du cinéma, ce genre de revue. Tu as l'impression que cette reconnaissance que peut avoir le cinéma vis-à-vis de ces revues, cette littérature critique et analytique n'est pas présente, n'est pas assez présente dans la BD?
Moi, je la vois pas suffisamment. Après, je suis comme tout le monde, je vois pas tout, je lis pas tout, je j'écoute pas tout, mais moi, je vois effectivement le constat qui a été fait par plusieurs personnes il y a quelques années. C'était dans l'Éprouvette, c'était dans une revue universitaire aussi qui s'appelait Labyrinthe, qui a fait un numéro 25 sur la bande dessinée qui s'est fait intéressant, ou par d'autres personnes dans le Comic Shop, que la critique de la bande dessinée, la critique de bande dessinée existe assez peu, quoi. Elle existe assez peu, elle est pour beaucoup, enfin, tu peux faire l'exercice, hein, tu prends le bouquin, tu fais une recherche, tu vois combien de un bouquin de bande dessinée, hein, 60 ans, et tu fais une recherche sur Internet, tu vois combien de sites te remontent jusqu'au quatrième de couverture ou combien de sites se retrouvent avec le prière d'insérer qui revient de manière omniprésente. En fait, on a une extrême rareté de pensée originale, hein, même si le terme est très. Très pompeux, mais de réflexion vis-à-vis des livres qui soient disponibles. La plupart des discussions aujourd'hui sur Internet se font dans les forums qui ont une vie assez éphémère. Et à côté, bon, on est beaucoup dans des choses qui sont très courtes, très superficielles, et puis avec beaucoup de poncifs, beaucoup de discours journalistiques, genre « Ah, c'est vachement bien, on attend le prochain avec impatience », ce qui dit pas grand-chose aux gens, quoi.
Tu parlais donc la revue dans laquelle tu enfin c'est une revue en ligne, hein, Comic Qualité, c'est une revue donc scientifique, enfin scientifique dans le sens
Non, c'est comme ça que
comment
ça s'appelle. C'est une
science
revue.
sociale, voilà. Oui,
C'est scientifique à comité de lecture, pour être très précis.
voilà. Oui, non, mais c'est-à-dire que je suis dans le milieu universitaire,
Voilà.
un petit peu. J'ai fait des j'ai fait j'ai essayé de faire des trucs sur la bande dessinée dans le milieu universitaire, donc. Donc je vois un peu, mais je cherchais le mot sciences sociales. Voilà. Parce que pour la plupart des gens, dès qu'on dit scientifique, les gens ne pensent pas aux sciences sociales, en fin de compte. Toi, tu as, enfin, ton métier à côté n'a rien à voir avec la BD. C'est un intérêt parallèle. Comment cette étude scientifique sur la BD?
Non, pour moi, ça a été une évolution, je pense, de mon regard sur la bande dessinée, avec l'envie de creuser un petit peu plus. C'est-à-dire que, je sais pas à quoi c'est dû. C'est vrai que c'est quelque chose que je me retrouve à faire de plus en plus, c'est prendre le temps, comprendre, creuser un petit peu. Et puis, non, puis il y a vraiment, je pense, il y a une partie de mon intérêt qui s'est tournée vers le discours. C'est vrai qu'à force d'essayer de porter un certain discours sur la bande dessinée, tu poses la question aussi de pourquoi il a du mal à passer, quoi. Quels sont les autres discours qui existent? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi présents? Et là, le truc, en fait, l'article sur la légitimation, en fait, c'était un article que m'avait commandé une revue. Et puis, quand je suis arrivé avec le début de ce qu'était l'article, hein, une autre revue, hein, il m'a dit: Ah ben non, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc, moi, je me suis retrouvé avec un article qui était quasiment terminé, qui faisait, à l'époque, celui-ci fait 25 pages A4. Sous Word, donc c'est quand même un sacré morceau, et je me suis dit, mince, c'est un truc que je trouve relativement intéressant, où est-ce que je peux ça serait bien de le publier. Je ne voyais pas le publier sur du neuf, et donc j'ai contacté les gens qui étaient en train de monter Comic Qualité, puis c'était quelque chose qui les a intéressés, et voilà comment ça s'est retrouvé là-bas.
Tu as des relations, des contacts avec un peu. Je sais qu'il existe quand même un peu de recherche dans ce domaine-là, même si c'est pas évident de s'en renseigner. Moi, quand j'avais fait, il y a peut-être 10 ans maintenant, j'avais essayé de faire une maîtrise sur la bande dessinée. C'est vrai que c'était très très difficile de trouver des informations, des revues, ne serait-ce que pour les avoir et se les procurer. Tu as l'impression qu'il y a quand même, enfin avec l'essor d'Internet, que l'essor des geeks, entre guillemets, que y a la communication se fait un peu plus là-dessus.
Au niveau de la recherche, je dirais, il y a eu toute l'initiative des carnets de la bande dessinée, donc de Benoît Berthoud, Sylvain Lesage, qui participent, qui sont derrière l'initiative Comic Qualité aussi, qui ont monté le carnet de la bande dessinée, qui est une sorte de centralisation de tous les appels à communication, des colloques, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça donne une visibilité. Moi, je suis pas du tout dans le réseau universitaire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'était complètement obscur, quoi. Il y a énormément de choses qui sont faites, qui sont publiées et qui sont pas très visibles. Après, je dirais, quand on creuse un peu, il y a deux, trois éléments. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en langue anglaise. Il y a quand même image et narrative sur lesquelles il y a des textes en français. Il y a texte-image qui lit de mémoire est entièrement en anglais. Et puis il y a beaucoup de choses de publication en langue anglaise qui sont montées ces derniers temps à European Comics Arts qui existe. Il y a Studies in Comics. Il y a The Journal of Graphic Novel qui est extrêmement mauvais de mémoire. Et puis il y a le International Journal of Comic Art qui est à ce qui paraît très bien, mais que j'ai pas réussi à me procurer parce qu'il faut envoyer un mandat international et bon j'ai pas fait la démarche d'aller voir comment régler ce problème administratif bête pour puis bon j'ai des difficultés de toute façon à descendre déjà mes piles de lecture, donc si c'est pour me rajouter un pavé de 800 pages tous les 6 mois, ça risque d'être un peu compliqué. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui se font surtout en langue anglaise, les Anglais sont très actifs là-dessus. Bon, c'est pour ça que moi je trouve l'initiative de Comicalité, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Parce que c'est vrai que c'est l'une des premières fois qu'on a accès à ce genre de texte. Je parle pas juste pour ma paroisse, mais tous les autres textes que j'ai pu lire étaient des textes qui étaient très intéressants, très originaux et qui apportaient quelque chose. Il y a aussi toute l'approche de 9e art qui met quand même pas mal en ligne le fond. C'est-à-dire les 9e arts papier, il y a une partie du contenu qui a été mise en ligne et qui essaie de faire vivre un truc, mais bon, après, c'est une autre problématique de réussir à faire vivre quelque chose comme 9e art de manière dans le sort de cloaque qui est Internet.
Oui, c'est en général pas évident. Pourtant, ce que j'ai trouvé sur Comicalité, c'est que les articles sont accessibles en intégralité pour tout le monde. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les articles qui sont publiés de façon universitaire. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert l'article la première fois, comme je bosse dans une fac, je me suis dit « Cool, j'ai de la chance, je suis à la fac, je vais pouvoir le lire. » J'ai cru que c'était parce que j'étais à la fac que j'arrivais à le lire en entier. C'est accessible.
C'est le principe du portail, c'était le choix délibéré de Benoît, puisqu'on a discuté. Il voulait se mettre sur revue.org et le truc, c'était d'avoir donc un accès qui était une consultation qui était entièrement gratuite. Alors, je crois que le téléchargement de PDF n'est pas gratuit. Je suis pas au point sur la manière dont fonctionne le business model, mais disons que la consultation est gratuite et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, maintenant, j'attends avec impatience la deuxième mise à jour, parce que je sais qu'il y a une deuxième vague qui devra arriver. Parce que, bon, il y a 4 articles qui sont bien, mais c'est juste 4 articles.
Oui, ça peut rien avoir plus.
Voilà.
Tu interviens pas mal en conférence, sur du festival. J'ai vu que tu avais donc participé à Périscopage, que tu avais fait, il me semble, des conférences sur Angoulême, que tu as eu la chance d'aller à BD à Bastia, que moi j'adorerais y retourner parce que ça fait des années que je suis pas allé et que c'est génial. C'est le fait d'être sur du neuf qui fait que tu as été contacté ou ça s'est fait par d'autres biais parce que tu connaissais d'autres personnes? Comment on se retrouve à être conférencier sur un festival?
C'est complètement du neuf et puis c'est le genre de truc qui fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que je pense que le point de départ, ça a été ma participation à la 3e université d'été de la bande dessinée. Pour laquelle je ne sais plus pourquoi j'avais contacté les gens en disant en fait j'ai vu que vous travaillez sur le marché et je fais tous les ans un truc qui s'appelle numérologie, est-ce que ça peut vous intéresser? On m'a dit ah ouais c'est vachement bien, si vous avez des idées de venir le présenter, très bien. Donc je me suis retrouvé là-bas et à partir de là ça a été un peu la boule de neige. J'ai eu Mort Vendio qui organise le Périscopage qui est venu me voir un jour en Angoulême en me disant écoute là, j'ai vu ce que tu fais sur Dinaf, j'aimerais bien que tu le fasses en conférence à Périsco. C'est par lui aussi que j'ai eu les contacts pour le monde diplomatique. Et puis petit à petit, j'avais des contacts avec June qui organise Pierre Feuille Ciseaux. C'est là-bas que j'ai rencontré Dominique Mattei, qui est l'organisatrice de BD à Bastia, qui m'a dit on aime bien du neuf, on aimerait bien travailler avec vous, être partenaire, organiser le truc. Tu viendrais, tu fais t'animes deux rencontres et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que ça se fait. C'est vraiment, je dirais, c'est pas mal de chance parce que c'est des choses qui sont intéressantes. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec Dominique Goblet ou Benoît Jacques Abbatia. Mais voilà, c'est pas, ça n'a pas été un truc sur lequel j'ai. Ça se fait petit à petit. Voilà.
Ouais, j'ai fait quelques fois BD à Bastia, c'est vrai que c'est un festival qui se prête beaucoup justement un peu à la conférence et à l'intellectualisation autour de la bande dessinée. Moi, c'est un festival que j'avais beaucoup aimé déjà il y a quelques années. J'espère qu'il a réussi à rester comme il l'était, parce que c'était vraiment un plaisir d'y aller à chaque fois. T'as un espèce d'amour des chiffres et des stats avec ton numérologie que tu sors tous les ans. Ce qui est assez rigolo, c'est que tu te plaignais dans un article qu'on ne s'intéressait qu'au côté chiffres, ventes et compagnie au niveau de la bande dessinée. Et d'un autre côté, toi aussi, tu t'amuses beaucoup avec les chiffres et les stats. Pourquoi est-ce que d'un coup, tu as eu envie d'avoir ce côté-là? On est vraiment dans du pur scientifique. T'as pas peur du fait de ton amour un petit peu de l'indé, d'être très biaisé dans tes analyses?
Je sais. Bon, d'une part parce que je ne veux pas trop l'être, parce que les chiffres que j'ai ne me permettent pas de dire quoi que ce soit sur la situation de l'indé, hein. Quand on a un top 50 ou un top 100, on ne va pas bien loin quand c'est pour juger de l'efficacité des indés. Puis, de toute façon, les indés ne sont pas dans cette problématique. La question de l'indé, ce n'est pas une question de marché, c'est une question éditoriale. Non, après, la raison pour laquelle je m'intéresse à ça, c'est viré par des formations professionnelles. Moi, j'ai fait pendant 10 ans, j'étais analyste de marché sur le jeu vidéo, je veux dire. Et par conséquent, ouais, j'ai été payé pendant 10 ans pour casser du chiffre jour et nuit, enfin, surtout jour. Et donc, bon, bah, quand j'ai vu ce qui existait sur les analyses où chacun essayait de dire, oh, ça va bien, regardez, ça monte, c'est vrai que moi qui avais des réflexes et des méthodes appliquées à d'autres chiffres, mais sur des marchés qui ont des dynamiques, des structures assez similaires, bah, ça m'a donné envie d'essayer de faire la même chose, de dire, bon, bah, attendez, ce qui est mis là, c'est pas forcément juste, ou bien on peut interpréter ça différemment. Voilà.
D'accord.
Et puis,
L'idée,
année
c'était de me...
après année, le numérologie est devenu un monstre, puisque à chaque fois je rajoute des morceaux, à chaque fois je rajoute des trucs, et petit à petit ça devient de plus en plus conséquent, et j'espère que ça reste encore lisible, parce que là le dernier fait 19 pages, je crois, et ça commence à faire
Ouais.
beaucoup.
OK. Ok, bah, et le prochain, ça sera pour, c'est
Ben,
vers décembre?
non, c'est non, je non, non, je ben, je suis obligé d'attendre que les instituts aient des chiffres de vente, donc c'est forcément en janvier, puisque bien
D'accord.
sûr, pour avoir les chiffres de vente du mois de décembre, il faut attendre que le mois de décembre soit fini.
Oui,
Et
effectivement.
voilà, et donc généralement, puisque moi j'ai des contacts chez Ipsos, ils auront les chiffres autour du 15 ou du 17. C'est à ce moment-là que le dossier de livret de sur la bande dessinée sort. Ceci dit, cette année, je pense que je vais sortir un petit peu plus tard, parce que en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se presser pour être présent à Angoulême, puisque l'expérience a montré que à ce moment-là, les journalistes ont déjà fait leur papier, ils s'en foutent un peu. Et ça sert à rien que moi je passe un petit peu de temps à stresser et à bosser comme un malade. En plus, les contacts que j'ai chez Ipsos à ce moment-là sont pas très disponibles. Si je veux gratouiller un petit peu plus d'informations, bah, peut-être que ce sera début février cette année, ou un petit peu plus tard, ça dépendra. Mais donc prendre un peu plus de temps dessus pour creuser, pour vérifier des trucs.
Ça permettra de parler un peu de BD après Angoulême.
Oui. Non, mais en plus, cette année, ce qui a été terrible, c'est qu'il y a eu zéro relais dessus, quoi. J'ai sorti le machin en début de semaine avant Angoulême, et ça a été repris beaucoup plus tard, mais il n'y a eu aucun écho dessus. Donc, se dire, bon, bah voilà, si en sortant Angoulême, tout le monde s'en fout, autant sortir plus tard, et peut-être avoir à ce moment-là un petit peu plus de cours.
On a beaucoup plus parlé du rapport de la CBD cette année.
Oui, mais il sort entre Noël et le jour de l'an tous les ans. Donc, d'une part, il a de l'avance. Et puis, il arrive à un moment où tout le monde veut des chiffres. C'est-à-dire que les journalistes, ils font l'analyse bilancielle le 1er janvier. Le 1er janvier, ils veulent savoir comment l'année précédente a été. Quand on arrive, ou bien ils font ça, ils préparent leur papier pour Angoulême 15 jours avant. Moi, en sortant mon truc le lundi avant Angoulême, c'est trop tard. Les types n'y vont pas, ou bien c'est trop long, et puis de toute façon, ils vont
Oui.
prendre le temps de le dire. Voilà.
Bon, bah, merci pour tout ça. Est-ce que il y a du neuf de prévu sur du neuf? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir sortir des articles? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui vont essayer de se faire? Ou est-ce que pour le moment, bah, ça tourne comme ça tourne et vous allez continuer?
Bah, j'ai envie de continuer déjà. En termes de nouvelles personnes, moi j'aimerais bien. J'aimerais aussi que des vieux qui sont là et qui n'ont pas participé depuis un petit moment reviennent. Là, je suis en train de préparer la rentrée qui devrait se faire le 9-9, donc le 9 septembre, c'est la semaine prochaine pour les jours. Donc bah, on est en train de creuser. Je ne suis absolument pas sûr. Je vais faire mon jeu éphémère, mais c'est aussi le plaisir de l'exercice. Voilà, aussi, il y a peut-être, on est en train d'essayer de travailler sur une nouvelle version du site au niveau interface. On a quelque chose en préparation, mais je ne sais pas trop quand est-ce que ça deviendra concret. On aimerait bien le faire à la rentrée, mais précisément quand, je ne pourrais pas te dire. Mais sinon, bon, on va essayer de continuer. Après, c'est vrai que ça. On va voir comment vont évoluer les choses. Mais sinon, bon, on veut continuer à exister, c'est déjà pas mal.
Ok, eh bien, je pense que on va passer à la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire qu'on va parler un peu des BD que tu as sélectionnés. On va commencer par une bande dessinée que tu as sélectionnée. Est-ce que tu nous as dit l'avoir offert plusieurs fois, approximativement de Lewis Trondheim. Alors, déjà, est-ce que tu peux rappeler un peu aux gens qui ne connaissent pas approximativement de quoi ça parle? Et me dire pourquoi est-ce que c'est une BD que tu offres beaucoup?
Alors, approximativement, c'est l'un des premiers essais autobiographiques de Lewis Trondheim. C'était publié dans un petit fanzine qui s'appelait Approximate Continuum Comics, qui était publié chez Cornelius. Et donc, c'est l'un des premiers Trondheim qui est publié chez Cornelius et pas chez l'association. Et c'est un bouquin qui me fait rire énormément, qui est à la fois qui justement est très très riche dans l'approche de l'autobiographie. Il y a une page qui me marque énormément, c'est une page où Lewis Trondheim se dédouble hein, et il ouvre la bouche et il plonge la main au fond de sa gorge et il tire un deuxième Trondheim et en fait il met en scène comme ça ses différentes facettes hein, avec le fan d'Heroic Fantasy, ado attardé complet. Qui est là, oh, c'est chouette la bagarre. Et puis il y a l'auteur qui se pose des questions existentielles. Il y a le type qui. Il se dédouble comme ça, il met en scène ses facettes. Et je trouve qu'en termes d'exploration du potentiel de la bande dessinée, de montrer des choses vraiment riches, intéressantes, et des questionnements aussi sur ce que c'est qu'être un auteur, je trouve ça intéressant comme bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est à la fois très accessible par ce format, un dessin très accessible et qui sous un couvert sympathique, hein, puisque ça se lit très très bien aussi, c'est assez drôle, c'est des choses qui sont, c'est pas dramatique, c'est pas, bah, ça touche quand même des, ça représente un bon potentiel de la bande dessinée et de l'autobiographie en bande dessinée.
Oui, surtout que ce que tu disais, l'exemple que tu donnais, on retrouve les facettes qu'il y a dans la production de Trondheim actuellement, avec de l'héroïque fantasy pas prise de tête et des choses un peu plus réfléchies, où il s'auto-questionne et où il auto-questionne sa BD.
Oui, puis en plus, je trouve que c'est un bon point d'entrée dans l'œuvre de Trondheim, puisque ça permet ensuite d'obliquer sur les Lapinots en commençant avec Slalom, qui est aussi un bouquin incroyable, mais aussi d'aller vers des choses qui sont plus expérimentales, bon, sans forcément aller sur les carottes, mais il y a des choses qui sont plus étonnantes de la part de Trondheim, plus inhabituelles, qui font que bon, bah, il a gagné la place qu'il a aujourd'hui aussi, là.
Moi, je crois que j'ai commencé à découvrir Trondheim rétrospectivement, c'est-à-dire qu'on avait déjà beaucoup parlé, mais en lisant les Carottes de Patagonie, ce qui était assez surprenant. Enfin, ça m'avait vraiment laissé très bizarre comme bande dessinée, parce que je trouvais ça génial. Ça donnait l'impression du mec qui ne sait pas dessiner, mais qui veut quand même faire de la BD, et qui, en fait, bah, maintenant, en fait très très bien.
Oui, ben il y a cette dimension dans Les Carottes qui est assez incroyable. Je veux dire, un roman d'apprentissage dans le sens où, effectivement, il y a l'apprentissage de ce que c'est qu'être auteur. Que ce soit à la première page où on est au degré zéro du scénario et degré zéro du dessin avec « Oh, une carotte, ça, c'est le plus beau jour de ma vie ». Et où petit à petit, il y a le moment où ils arrivent à la ville, où ils traversent une sorte de montagne
qui représente un point de basculement, je trouve. Et puis après, brusquement, on se retrouve avec des intrigues super, super compliquées, des contre-plongées ou bien des vues de haut qui sont absolument incroyables. Et on se retrouve à lire ça comme un thriller. Et quand arrive la 500e page où, comme prévu dans le contrat, à la page 500, on s'arrête, on se dit, ah ben merde, où est-ce qu'elle est la suite?
Oui, parce qu'on l'a, ouais. Mais le jour où il fera 42 Patagonie 2, je pense que Trondheim aura sombré dans le commercial.
Voilà.
pour faire un petit virage, en restant quand même dans de l'européen, dans un petit virage à 180 degrés, tu as parlé de Cromwell Stone, d'Andreas.
Oui.
Donc moi, je suis un grand fan d'Andreas. Sauf que je suis très ennuyé. C'est mon frère qui possédait les Rorques que j'avais adoré, et j'ai décidé avant de continuer la collection d'Andreas, de finir les Rorques. Sauf que pas mal de tomes sont épuisés à l'heure actuelle. Oui, mais ça devrait changer parce qu'il y a un Rorque zéro qui est prévu pour cette année. Donc, oui. Enfin, donc ça, je pense que va y avoir de la réimpression. Alors, Cromwell Stone, c'est une BD qui, me semble, n'est pas totalement liée à son univers qu'il y a avec Rorke et Capricorne.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de cette BD? Tu m'as dit que c'était un dessinateur avec qui tu rêves de travailler.
Ou que j'aimerais interviewer.
Oui, que tu aimerais interviewer, oui.
Bah, Cromwell Stone, pour moi, la bande dessinée c'est un élément symbolique fort, puisque c'est la première bande dessinée que j'ai achetée pour moi avec mes sous. C'est déjà physiquement quelque chose d'assez fort. C'est l'histoire d'une maison hantée à la Lovecraft. Il y a eu un Cromwell Stone 2 qui est arrivé 10 ans plus tard, et puis il y en a eu un autre 10 ans plus tard. Visuellement, c'est assez incroyable parce que c'est de la carte à gratter. J'ai eu l'occasion de me faire dédicacer, c'est une des rares dédicaces que j'ai, de me faire dédicacer le retour de Cromwell Stone par Andreas, qui avait dit qu'il en faisait un tous les 10 ans parce que sinon il allait devenir fou avec la carte à gratter. Et voilà. Et puis bon, ben, c'est vrai que Andreas, c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué, que ce soit Cyrus, Mill. J'avais un très bon souvenir de La Caverne du Souvenir, justement. Je pense que si je le relisais aujourd'hui, peut-être que j'aurais changé. Rorke tient toujours la route. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire Les Capricornes. J'ai un peu de retard sur les arcs, et puis après moi j'ai aussi pas mal de petits bouquins, le Triangle Rouge par exemple. J'ai beaucoup apprécié qu'il décide de s'impliquer à la fois dans des entreprises comme le Comics 2000, puisqu'il fait partie des rares auteurs mainstream à avoir répondu par l'affirmative avec une proposition dans Comics 2000.
Mainstream, tu considères Andreas comme un auteur mainstream?
Bah, il est publié chez Lombard, donc t'es quand même dans une maison qui, après lui-même, n'est pas forcément un auteur mainstream, mais j'irais un auteur qui participant comme ça, qui se trouve dans quelque chose de mainstream. Il a toujours été publié autant. Dans le contenu, on est sur des choses qui sont absolument incroyables, hein. Rêve en case, donc Capricorne, est une réflexion sur l'espace intericonique ou un questionnement de l'espace intericonique assez incroyable. L'album muet qui n'a pas de titre de Capricorne, il y a vraiment un questionnement qui est vraiment intéressant. Après, oui, s'il faut mettre une étiquette, il sera mainstream parce qu'il est chez un gros éditeur. Donc, allez, corrigeons ça. C'est le seul auteur qui soit publié chez un très gros éditeur qui a accepté de se prêter au jeu du donjon, puisqu'il en a fait deux, si je me souviens bien.
Ouais, je crois bien, ouais.
C'est les deux avec Marvin Rouge, là, dans...
Ouais, des Crépuscules.
Je ne sais plus, c'est l'histoire avec la carte.
Je sais plus non plus.
Il y a une trilogie qui se passe et il en a fait deux. Donc, ouais, c'est aussi quelque chose qui me fait encore plus apprécier le personnage. Même si c'est un petit peu idiot, mais c'est vrai que j'ai énormément de respect pour Andreas et ses perspectives et ses mises en page m'ont toujours foutu par terre.
Voilà, c'est
quelque chose d'assez fascinant.
C'est vrai que c'est un auteur qu'on ne serait pas du tout attendu à voir sur un donjon. Il a un style graphique tellement, comment dire, je dirais ce côté un peu à l'ancienne, avec beaucoup de traits, quelque chose, mais que je trouve comment ça me fait penser parfois aux vieilles gravures qu'on peut avoir dans du doré, mais avec un côté très moderne derrière, avec beaucoup de dynamisme. Et vraiment, oui, il travaille vraiment ses planches, je trouve, comme enfin, il travaille ses planches comme de la BD, quoi. Il fait pas plein de jolis dessins, alors que chaque dessin séparément est déjà génial, mais en plus, il arrive à les assembler de façon assez magistrale, je trouve. Ouais. Donc Cromwell Stone, effectivement, il faudrait que je poursuive mes quêtes d'Andreas, mais dès que j'aurai fini les orques.
Celui-là a été réédité.
Ouais, Cromwell
Celui-là a
Stone
été
est plus
réédité
facile. Ouais.
parce que moi j'ai l'édition, ce que j'avais acheté c'était l'édition Michel Deligne qui était parue il y a très très longtemps et il a été réédité puisqu'il y a eu une suite, je crois chez Delcourt, mais je suis pas sûr.
On va changer un peu de pays. Tu nous as parlé, enfin tu nous as, tu m'as parlé de Billy Bat de Naoki Urasawa. Tu as dit que tu avais été un peu déçu. Alors moi, je suis un grand fan de Urasawa. Il a en grande partie, il m'a permis de revenir au manga après une longue pause pendant de nombreuses années malheureusement. J'ai raté plein de choses bien. Il m'a permis de m'y remettre, et donc ça, c'est la prochaine BD de Urasawa, et ça t'a déçu. Alors, je suis vachement intrigué. Qu'est-ce que ça raconte, le Billy Bat?
Alors, Billy Bat, c'est l'histoire d'un. Ça se passe en 47 ou 48 de mémoire, et c'est l'histoire d'un jeune américain qui s'appelle Kenji Yamakawa ou quelque chose comme ça, enfin, qui est un deuxième génération, un américain dont les parents étaient japonais, et qui est dessinateur de Billy Bat, qui est une sorte de détective privé à l'impermastique qui enquête. On est vraiment dans du film noir, tout ce qu'il y a de plus typique, et qui découvre que ce personnage de Billy Bat existerait peut-être dans un manga au Japon. Et comme il veut pas avoir d'accusation de plagiat, il décide d'aller dans le Japon, qui est à l'époque sous l'occupation américaine avec MacArthur, et qui va essayer de retrouver ce Billy Bat et petit à petit découvrir que c'est une sorte de figure mythique qui remonte très loin, dont on ne sait pas très bien quelle est l'origine et dont on ne sait pas trop ce qu'est et qu'elle pourrait avoir des impacts à plusieurs moments sur le déroulement de l'histoire, avec un grand H. Voilà. Et j'ai lu les trois premiers volumes et globalement, je trouve que c'est du grand n'importe quoi, que j'arrive plus à accrocher, que voilà, je vois pas du tout où il veut aller. Voilà, j'ai pas du tout accroché, même si, bon, je vais dire aussi que j'ai de grosses réserves sur 20th Century Boys. J'ai trouvé plutôt bien, mais pas top. Donc, je suis pas non plus un fan de Urasawa, mais là, j'attendais quand même mieux.
Ouais, surtout que tout apparemment, tu étais un peu fan de toutes ces références aux vieilles BD américaines. Ce qui va m'apporter une superbe transition avec ta dernière découverte BD qui est Walt et Skizix, et les rééditions de Gasoline Alley de Frank King chez Drawn and Quarterly. Donc on est là dans de la VO. Alors, je me suis renseigné quand même, mais c'est un super méga classique, on ne connaît pas du tout en France.
Ouais, en fait, c'est le truc. Si tu regardes, Chris Ware ne jure que par ça. C'est lui qui fait le design. Quand on regarde tous des gens comme Seth, Chester Brown ou Joe Matt ne parlent que de ça aussi en disant que c'est absolument génial. Effectivement, ça n'a jamais été très français. C'est assez exceptionnel. Ça part sur un truc, sur des gars qui parlent de voiture, jusqu'au jour où Walt, qui est un célibataire endurci, trouve sur son perron un bébé qui va appeler Skizix. Et en fait, le bébé grandit. C'est-à-dire qu'à chaque jour qui passe, hein, chaque jour de publication du strip correspond à un jour qui passe dans la vie de Skizix. Donc il arrive un 14 février, et le 14 février 21, et le 14 février 22, ben, on fête le premier anniversaire de Skizix. Et là, Drawn and Quarterly a sorti les trois ou quatre premiers volumes. Hein. J'ai lu les trois premiers, c'est qui représentent 6 ans. Et je me retrouve donc avec Skizix qui a 6 ans, qui a appris à marcher, qui parle, les personnages ont vieilli, etc. Et il a tenu ça pendant super longtemps. Aujourd'hui, Skizix a 90 ans. Et c'est, bon, au-delà de simple concept, c'est juste super bien fait. c'est vraiment chouette. Voilà.
Ça change beaucoup
et je dirais de manière générale, c'est le côté assez exceptionnel des Américains. Oui, vas-y. Oui.
Oui, ça change beaucoup de tout ce qu'on a l'habitude avec la BD américaine, avec ces personnages qui ne vieillissent jamais, justement.
Oui, oui, tout à fait. Je dirais, c'est la grande chance qu'on a avec les Américains aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train d'avoir une grosse approche sur tout ce patrimoine. J'ai récupéré aussi le Mickey que publie Fantagraphics, les Mickey de Floyd Godferson, des choses qui sont super intéressantes. Les Peanuts qu'on a aussi chez nous, mais Fantagraphics réédite en couleur et en grand format les prix de Valiant de Hal Foster. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, historiques. Sans parler même du Crazy Cat de Harriman, qui sont aujourd'hui disponibles, et puis en plus à des prix qui sont tout à fait intéressants. Certains éditeurs français pour en prendre de la graine ou bien imprimer à Singapour, ce qui est aussi le truc que fait Fantagraphics. C'est vrai que des éditeurs comme Cornelius préfèrent travailler avec des éditeurs locaux, ce qui est aussi à mettre à leur nouveau jeu. Voilà.
Oui, c'est bien, mais ça fait des bouquins qui sont qu'il faut pouvoir s'offrir. Je sais que Une vie dans les mares, j'ai adoré, mais ça grève pas mal le budget du mois.
Hein. Mmh. C'est l'inconvénient.
Voilà. Et c'est une série qui a continué pendant Walt and Skizix, qui s'est arrêtée maintenant ou qui continue encore?
Non, ça continue encore. Frank King les a tenus jusqu'en, je vais pas dire le bêtise, mais je crois dans les années 50, donc il a tenu ça 30 ans. Et puis ensuite, il a passé le relais. Je crois que son fils a pris pendant un petit moment. Puis ensuite, c'est comme c'est un truc qui appartient au syndicat, je crois.
Oui, c'est classique.
Donc, c'est passé de dessinateur en dessinateur. Ça continue encore aujourd'hui.
C'était un strip quotidien. C'était une planche dominicale.
C'est un strip quotidien avec planche dominicale. Hein, donc non, il y a pas. Oui, il y a les planches dominicales, sauf que Drum and Quarterly les édite dans deux formats différents. Comme les planches dominicales étaient grandes planches couleur, elles ont été éditées. Il y a eu, So Many Sundays with Walt and Skizix, je crois, un grand volume que j'ai pas. Mais sinon, là, c'est les volumes qui sont des volumes à l'italienne, comme les Peanuts, comme les Terry and the Pirates qu'on a vu traduits en français.
Qui étaient très très jolis d'ailleurs, qui font très envie, qui sont régulièrement sur mes listes de cadeaux. Mais les gens ne comprennent pas mon amour des vieilles BD. Avec ces vieux dessins qui racontent des trucs de guerre contre des méchants japonais, c'est n'importe quoi. On va retourner un petit peu en France, enfin je crois que c'est en France, avec Par les sillons. De Vincent Fortan, oui. Donc qui est chez Frémok. On est en Belgique, voilà. C'est pour ça que j'ai bien fait d'hésiter. Parce que j'essaie d'écouter les autres podcasts qui parlent de BD et je fais des détours en Suisse, en Belgique et au Canada, il me semble. Mm-hmm. Pas beaucoup en France, en fait. Mm-hmm. Et donc, ils avaient parlé de Frémok, qui est un éditeur que je connaissais pas. Et Par les sillons, tu as dit que c'était une BD que tu ne lisais que pour les images. Explique-nous ce qu'est Par les sillons.
Oui, alors c'était plus une boutade par rapport à ton questionnaire.
Oui, j'ai vu après.
parce que Par les sillons est un récit entièrement muet. En fait, c'est tout le travail de sauf erreur, le travail de Vincent Fortin est un travail qui est largement muet. Il y a une technique de travail qui est très très étonnante puisqu'il dessine sur du rhodoïde. Il dessine des deux côtés du rhodoïde, donc c'est un support transparent. Il dessine avec des crayons gras et ensuite il gratte avec des pointes, des stylos, etc. Et ça fait des ambiances qui sont très particulières. Et Par les sillons, c'est un livre qui est sorti en 2010, je crois, et c'était une claque. Visuellement, c'est une claque. C'est à la fois super beau, c'est un bouquin qu'on n'épuise pas, dans lequel il y a beaucoup de choses. Et je dirais, c'est un auteur sur lequel j'avais envie d'écrire quelque chose, et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce bouquin. J'ai réussi à sortir un texte qui. Donc je suis assez fier. C'est parfois il y a des textes comme ça où on se dit j'ai bien réussi à retranscrire ce que je ressentais. Et de manière générale, c'est vis-à-vis du Frémok. Alors le Frémok, c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2002. C'est la fusion du Fréon, qui était une maison belge, et d'Amok, qui était une maison française. Amok fondée par Yvan Lagbé et le deuxième m'échappe et il va m'en vouloir d'oublier. Mais bon, le Amok était éditeur d'une revue qui s'appelait Le Cheval sans tête, hein, qui est une revue qui visait vers la littérature. Et Fréon, qui était donc les Belges, donc il y avait Vincent Fortan, les frères Després et Thierry Van Hasselt, qui faisaient Frigo Box, dans lequel il y avait eu du Alex Barbier, etc. Et en 2002, ils ont fusionné parce qu'ils avaient des approches qui étaient très assez similaires, très avant-gardistes. Et tout ce que fait Fréon, Frémoc, c'est des livres qui souvent sont assez impressionnants, mais sur lesquels moi j'ai beaucoup de mal à écrire quoi que ce soit. Je reste muet d'admiration. Ils ont publié notamment une trilogie d'un Finlandais qui s'appelle Marco Turunen, qui a fait dernièrement, le dernier bouquin qu'il a sorti, c'était de la viande de chien au kilo, qui est un bouquin assez incroyable aussi. Le Frémoc, c'est des bouquins qui sont vraiment, vraiment étonnants, qui sont proches souvent de l'art conceptuel, de l'art moderne. Il y a par exemple Michael Matisse qui a fait un truc qui s'appelle La Ville Rouge, qui est sur Charleville-Mézières, qui parle de la ville un peu en déliquescence, la ville en déclin. Il a fait tout ça en peignant avec du sang de bœuf récupéré aux abattoirs de la ville.
Est-ce que à ce niveau-là, ça reste de la bande dessinée? Est-ce qu'il y a encore une narration? Est-ce que c'est pas plus une comment dire, une sorte de suite de belles illustrations, mais tu parles sciences, il y a une narration dedans?
Il y a tout à fait une narration. Ça remet en question aussi le lecteur, c'est-à-dire que ça demande au lecteur de faire un effort. Parce que il y a un pacte qui se passe entre l'auteur et le lecteur quand on est devant un livre, c'est qu'il y a un récit, c'est qu'il va y avoir une histoire. Et après, c'est à toi de voir jusqu'où tu es prêt à aller gratter pour aller trouver cette histoire. Quand tu es dans de la classique à bande dessinée franco-belge, et tu école de Marcinelle ou le deuxième m'échappe, Lignecker ou Marcinelle, t'es dans des choses où c'est très codifié, tu sais très bien quelle est la prochaine case, tu sais les personnages se ressemblent d'une case à l'autre, il n'y a pas de difficulté à savoir qui parle, le récit va se dérouler avec un début, un milieu, une fin. On est dans les clous, il y a peu d'efforts à faire. C'est très codifié, tous les efforts ont été faits avant pour comprendre comment ça fonctionne. Quand on lit un Black Mortimer, on est pris par la main. On a pris du temps à comprendre comment ça fonctionnait, maintenant ça marche.
Tu nous expliques bien dans Black Mortimer.
Voilà, on nous explique bien et puis on nous explique ce qu'on nous montre. Donc ça permet d'être sûr qu'on a bien compris ce qui se passait. Et là, c'est à toi de décider, d'essayer de creuser, de revenir, de poser des questions de ce qu'il a voulu dire. En plus, c'est muet dans Par les sillons, qu'est-ce que c'est qu'on me représente? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Est-ce que c'est le même personnage là et là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Comment est-ce que je le prends? Donc c'est un autre état d'esprit, c'est une autre manière de fonctionner. Et pour moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement stimulant, extrêmement intéressant aussi.
Tu crois que c'est le genre de BD qui permettrait d'avoir, de revendiquer, on revient sur la légitimité, mais la bande dessinée en tant que qu'art?
Je sais pas. Oui, sans doute. Après, le truc, c'est pas juste avec une bande dessinée. En fait, c'est peut-être le problème sur la question de la légitimité. Le problème, c'est un peu, c'est souvent de vouloir soit considérer la bande dessinée comme un tout, soit se limiter à un seul exemplaire et pas d'expliquer en quoi il est bien par rapport à la bande dessinée. Là, revenons sur Persepolis, la bande dessinée, la légitimité, elle est là, quoi. Il y a eu un film, tout le monde sait sur un sujet grave qui est traité en bande dessinée. Sauf que on n'a pas expliqué en quoi c'était une bonne bande dessinée, en quoi la bande dessinée pouvait avoir un intérêt à parler de ça. On n'a pas donné non plus les clés pour que les gens puissent aller se tourner vers du Joe Sacco, par exemple, qui fait du reportage, pour aller se tourner vers du David B, qui a une proximité graphique, mais qui va parler, par exemple, de l'épilepsie. Il y a plein, tu vois, Ouais, moi, quand je parle, pour revenir sur approximativement, moi, ce qui m'intéresse dans approximativement quand je l'offre, c'est de pouvoir dire, ben voilà, ça, c'est un truc, ça vous ouvre des trucs, et puis ensuite, si vous continuez chez cet auteur, vous allez découvrir d'autres facettes, et puis si vous continuez chez cet éditeur, il y a cet intérêt d'avoir un truc qui permet brusquement d'ouvrir. Et là, sur beaucoup de choses, sur tous ces livres dont on dit c'est de l'art, ou c'est une bonne bande dessinée qu'on sort comme ça, c'est, on les sort, et puis on va pas plus loin. On les montre, et puis, et puis on s'arrête là, tu vois.
Okay.
C'est plus comme ça que c'est là que je vois les limites du système.
Alors, nous allons parler maintenant de Neji Shiki. Alors là, je ne connais pas du tout. Tu as dit que ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'on traduise. Donc c'est peut-être normal que je ne connaisse pas, parce que si c'est du japonais et que ce n'est pas traduit, c'est sûr, je ne connais pas. De Tsugeyoshi Haru, que je dois sûrement très mal prononcer, qui est son œuvre en général, apparemment, que tu apprécies beaucoup. Alors, qu'est-ce que Neji Shiki et qui est ce Tsugeyoshi Haru?
Alors, Tsugei, il y a juste un livre qui a été traduit en français par Ego Comics, qui s'appelle L'homme sans talons. Donc, Neji Shiki, c'est une œuvre qui, c'est une histoire courte, qui est assez centrale dans le développement de la bande dessinée alternative japonaise. Donc, il y a une revue qui est importante dans la bande dessinée alternative japonaise, qui est Garo, qui apparaît en 1964, hein, et qui va agoniser jusqu'en 1990 à peu près. Et Neji Shiki, c'est 67 ou 68 de mémoire. Et c'est Tsugei, qui est un jeune auteur, qui a publié un petit peu à ce moment-là, qui va publier ce récit qui est le récit d'un rêve. C'est assez surréaliste, hein. C'est assez étonnant. Il y a eu une traduction qui a été faite par le Comics Journal, donc on peut le trouver traduit en anglais sur Internet en cherchant un peu. Il y a des scans qui traînent. C'est une histoire qui est pas très longue, hein. Ça fait une quinzaine de pages, je dirais. Et ça a été le départ de toute une bande dessinée alternative japonaise qui brusquement s'est lancée dans les expérimentations dans tous les sens. Donc ça, c'est une œuvre qui est très particulière chez Tsugei. Et puis sinon, Tsugei a toute une œuvre qui est une œuvre souvent autobiographique, très poétique, qui est vraiment extrêmement passionnante, qui est disponible. Ça fait partie des auteurs, des rares auteurs japonais pour lesquels il y a des intégrales. Il y a une collection qui est l'intégrale de tout ce que Tsugei a fait. Il faut savoir qu'il est en dépression depuis 1970, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça fait 20 ou 30 ans qu'il a plus rien publié. Mais c'est vraiment un auteur qui est absolument fascinant, absolument passionnant. Il y a un entretien avec lui sur le site d'Ego Comics que je recommande chaudement. C'est dommage qu'il n'y ait que l'homme sans talent qui existe en français aujourd'hui. Et même en anglais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui a été traduit à part le Neji Shiki qui s'appelle Screw Style. Hein, si vous voulez chercher sur Internet, c'est Screw comme vis en anglais et Style.
Ok, après, je ferai une recherche et je mettrai ça dans les liens de l'émission si je trouve. Ok, ça a l'air super intéressant. C'est le genre de truc qui pourrait arriver peut-être un jour chez Cornelius. J'ai l'impression qu'ils essaient de s'intéresser à des auteurs japonais un peu fondateurs. Enfin, moi, c'est le Une vie dans les marches qui m'a marqué parce que ça m'a fait découvrir tout un pan de la BD japonaise que je connaissais pas, en fait. Tu penses que on pourrait avoir peut-être un jour ce genre de choses-là en français?
Alors pour Tsugei, je sais pas quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas eu autre chose de traduit. J'ai cru entendre dire que c'était des questions de droit ou que lui voulait pas qu'il y ait des choses qui soient éditées. Ça, c'est un autre problème. Par contre, effectivement, Cornelius a aujourd'hui un catalogue qui est assez incroyable au niveau des auteurs japonais, puisqu'ils sont en train de publier des anthologies sur quasiment la plupart des auteurs de Garo de la première période, donc la première période qui va jusqu'en 72, je dirais, donc de 64-72. Donc ils ont fait Neige Rouge, La Promesse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu Élégie en Rouge de Hayashi Seichi. Il y a eu donc une vie par ils ont publié les Tatsumi. Donc il y a vraiment une volonté de mettre à disposition toute cette partie-là de Garo et de cette production-là. Il y a Un gentil garçon aussi de Shinichi Abe qui est assez exceptionnel aussi. Et à chaque fois, en ayant un accompagnement aussi, parce que ce sont des œuvres qu'il faut replacer dans un certain contexte. Donc, il y a des préfaces ou bien des postfaces. Celle, par exemple, d'un gentil garçon est extrêmement éclairante et explique par le menu les éléments dont on a besoin pour comprendre quelle est la vraie valeur des histoires. Donc, il y a un vrai travail d'accompagnement aussi qui est essentiel.
Ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que parfois, sur des intégrales ou des choses un peu vieilles, on n'a pas toujours cet accompagnement-là, et c'est pas évident de se rendre compte que ce qui a l'air maintenant d'être un peu commun, bof, pas génial, remis dans le contexte, peut être assez impressionnant, en fait. On va faire un dernier tour au Japon. Tu nous as parlé de Adachi Mitsuru et ses séries de baseball, qui étaient un peu ton plaisir honteux. Donc, j'ai vu qu'il avait fait des trucs comme Raout, des trucs comme ça, donc qui sont traduits. Il y en a pas mal de ces séries qui sont traduites, il me semble, en français.
Ouais.
Et donc, tu as une passion pour les séries de baseball japonaises, Adachi Mitsuru.
Oui, il y a un autre auteur que j'aime beaucoup qui fait aussi de la série de baseball qui s'appelle Hara Hidenori, dont il y a eu juste deux ou trois trucs qui ont été traduits et pas les meilleurs. Il a fait Regatta, je crois, et puis il y a eu L'homme du train d'Enchao Toko qui a été traduit, qui était un job de commande. Mais oui, j'aime bien les séries de baseball japonais.
Alors, c'est doublement étrange parce que bon, c'est des séries de sport. On sait que on est très très loin de l'indé. On est dans du bon gros mainstream. Mais en plus, le baseball, quoi, le sport super pas abordable pour un Européen et encore plus un Français, j'ai l'impression.
Ouais, enfin moi, j'ai passé 5 ans au Japon à bouffer du baseball quasiment tous les soirs. Donc au bout d'un moment, on apprend les règles et on comprend un petit peu quel peut être l'intérêt. Ensuite, au-delà du baseball, enfin moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Adachi, puisque c'est lui le plaisir coupable, Adachi est un auteur qui, c'est un auteur qui raconte quasiment tout le temps la même histoire avec du baseball et qui a pas un dessin non plus qui est super, c'est toujours le même dessin, c'est un dessin qui est efficace, mais c'est pas particulièrement novateur ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de très attachant dans la manière dont il met en scène ses personnages, dont il prend, il y a des tas de moments qui sont très surprenants, il prend à contre-pied des techniques spectaculaires. Par exemple, il va y avoir un match où brusquement l'équipe se retrouve complètement écrasé et doit remonter un déficit de points absolument incroyable, et plutôt que de nous faire vivre cette remontée spectaculaire coup par coup, brusquement il passe tout de suite à la suite et t'as quelqu'un qui fait 18-17, quoi, c'est un score de baseball, de basket, non c'est le score de baseball, ah bon, d'accord, et puis on passe à autre chose. Il y a comme ça pas mal de moments où il prend complètement à contre-pied ce qu'on pourrait attendre. Et il y a deux trois trucs, notamment l'utilisation de pages muettes, qui est quelque chose d'assez étonnant chez Adachi. Très régulièrement, il y a des grandes planches qui sont des planches un petit peu méditatives, qui sont assez intéressantes. Et le fait de parler méditatif me fait aussi penser le fait que Adachi est un auteur qui se place à distance de ses personnages. Donc on n'a pas accès aux états d'âme des personnages. C'est entièrement au lecteur de deviner quel va être l'état d'âme du personnage. Et il joue beaucoup là-dessus. On n'est pas du tout dans des trucs qui vont être à se poser des questions. C'est vraiment, c'est nous-mêmes d'essayer de voir ce que pensent les personnages. Et c'est très très bien joué, très très bien fait. Voilà. Il y a un très bon savoir faire chez Adachi qui est, voir, c'est quelqu'un qui est toujours, qui a commencé en 1981, je crois. Donc ça fait 30 ans qu'il est, qu'il est publié, 30 ou 35 ans, il est toujours là et réussit encore à me surprendre. Moi, j'ai toujours pas mal de plaisir à lire du Adachi. Voilà.
Ok, c'est bon à savoir. Bon, je t'avoue que les séries de baseball, je suis pas sûr de foncer dessus. D'autres sports, peut-être. C'est vrai que les règles du baseball sont costauds quand même. Hein.
Bon. Dans ce cas, tu peux lire Ruff, qui est une série en 6, alors elle doit être en 12 volumes en français, mais j'ai en 6 volumes en japonais, qui est autour de la natation.
Ouais, c'est plus abordable déjà.
Voilà, et qui est aussi une très très bonne série avant de se lancer dans Touch, qui est son chef-d'œuvre selon beaucoup. Mais Ruff est un bon point d'entrée. Voilà.
Ok. Et tu as dit que tu trouvais que une bande dessinée surévaluée était le Combat ordinaire de Manu Larsonnet. Alors, le Combat ordinaire, qui est quand même considéré comme, effectivement, une BD très bien considérée, un grand classique de la bande dessinée contemporaine. Déjà, comment est-ce que tu nous résumerais l'histoire de cette bande dessinée avant de nous dire pourquoi tu la trouves surévaluée?
Résumer l'histoire. C'est un récit qui porte sur la question du passé, de l'héritage. Je veux dire, ça fait un petit moment que j'ai lu le dernier, j'ai lu au moment où il paraissait, donc j'ai pas un souvenir très très précis du truc, mais il me semble que c'était beaucoup là-dessus, puisqu'il y a au départ la relation avec son voisin dont il découvre qu'il a été tortionnaire durant la guerre d'Algérie. Désolé pour ceux qui l'avaient pas lu, hein, je suis en train de vous spoiler tout. Et ensuite, il y a toute la question du rapport à son père, avec qui il a une relation un peu particulière, alors que lui-même va devenir père. Si je me souviens bien, c'est un petit peu l'enjeu des deux ou trois volumes qui passent après, sachant qu'il y a un deuxième qui est sur les gens qui travaillaient dans le chantier naval où travaillait son père, qui sont des gens qu'il avait connus auparavant et dont il découvre qu'il vote à FN aujourd'hui. Donc c'est la manière dont le temps passe, dont les gens changent, dont le passé, etc. Et voilà, donc je les ai vraiment lus, hein. C'est ce que tu voulais vérifier.
Non mais c'est ce que moi-même j'avais du mal à essayer de résumer la série, donc ça m'aidait.
Voilà, et pourquoi est-ce que je trouve que c'est surévalué? J'ai trouvé le premier très bien, et à partir du deuxième, ça a commencé à m'ennuyer. En fait, je trouve que c'est un peu le... J'ai l'impression que avec le succès du premier, Manu Larsonnet s'est rendu compte qu'il faisait passer un message. Et derrière, il y a une conscience de ce qu'on est en train de faire passer un message qui fait que ça perd en subtilité, ça perd en finesse, c'est ce qu'il y avait dans le premier. Et on a des tas de moments qui sont assez didactiques. Bon, pour prendre l'exemple du deuxième, c'est ah là là, c'était des gens que je connaissais étant enfant, je pensais qu'ils étaient gentils, mais aujourd'hui ils votent FN et c'est mal, mais en même temps je peux les comprendre parce que enfin il y a tout un côté un peu prêchi-prêcha comme ça que j'ai trouvé de plus en plus insupportable avec les volumes qui s'enchaînaient et voilà. Donc pour moi c'est pas le premier était bien et puis il aurait dû s'arrêter là, les trois suivants m'ont beaucoup ennuyé. Il y a ce côté trop didactique dans la volonté de faire passer un message un petit peu profond.
Ok, et on va finir on va finir sur les trucs classiques avec ce que tu considères un peu comme ton chef-d'œuvre apparemment, c'est le Acme Novelty Library de Chris Ware. Plus connu chez nous sous le nom de Jimmy Corrigan, Acme et Kimby's Mouse. Parce qu'apparemment, ils ont tout mis en plusieurs bouts en France.
Pas qu'en France, aux États-Unis aussi.
Ah d'accord. Je n'ai jamais lu de Chris Ware. L'objet de Jimmy Corrigan m'a toujours fait de l'œil. Et j'ai toujours reporté l'achat du Jimmy Corrigan. Et voilà, c'est une de mes hontes, surtout de la vouer devant toi. Et avec tout le bien que j'ai entendu sur cette BD, et en le feuilletant, je me suis dit, waouh, ouais, ça a l'air trop bien. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte que The Acme Novelty Library, avec mon accent pourri?
Alors, The Acme Novelty Library, c'est la série de comics que publie Chris Ware et dans lesquels il y a plein de numéros. Alors, les numéros ces derniers temps se sont un peu standardisés au niveau du format. Parce qu'avant, c'est des formats, ça part dans tous les sens. C'est surtout le laboratoire d'expérimentation de Chris Ware en termes de narration. Donc, il y a des grandes histoires qui correspondent à ce qui a été publié en recueil, donc Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, qui correspond à une histoire de Jimmy Corrigan qui essaie de retrouver son père, Jim Corrigan qui est un célibataire un petit peu raté, tout seul, et qui va retrouver son père qu'il a abandonné étant jeune. Donc c'est un peu cette quête avec de la nostalgie, toutes les figures de super-héros, de mères, etc. C'est assez impressionnant. Et puis ensuite, la dernière série qui est en cours est une série sur tout un tas de personnages, de collectionneurs de science-fiction, de choses comme ça. On sait beaucoup sur la solitude, sur la nostalgie, sur des personnages qui sont souvent très attachés à l'enfance. Voilà. Et plastiquement, c'est juste incroyable. C'est un dessin qui est extrêmement léché, qui peut sembler comme extrêmement mécanique, qui est en même temps extrêmement inventif, dans lequel il y a des jeux de construction, de diagrammes. Enfin, c'est assez impossible à décrire. Il faut le voir. Alors effectivement, ça a été publié en français sous format de plusieurs recueils qui correspondent aussi à des recueils qui existent en anglais, hein, puisque Jimmy Corrigan, c'est un premier recueil. Il y a donc Queen Bee the Mouse, qui est un recueil de petits strips qui joue avec une souris qui ressemble un peu au premier Mickey de Steamboat Willie. En fait, Queen Bee est une souris qui souvent a deux têtes, et puis il y a toujours une tête qui va mourir ou qui va vieillir et qui devient un boulet ou un poids pour l'autre tête de la souris, donc avec des choses qui sont souvent extrêmement tristes, extrêmement dramatiques. Et puis Acme, c'est un recueil de récits avec Big Tex, avec je sais plus Rocket Sam, qui est un astronaute qui se retrouve perdu sur une planète avec juste un robot pour compagnon, etc. Donc c'est beaucoup de choses sur la solitude. C'est vraiment un thème qui revient beaucoup chez Chris Ware. Mais du point de vue de la narration et de l'utilisation du médium de la bande dessinée, c'est juste incroyable.
Oui, enfin, en feuilletant le Jimmy Corrigan, moi j'ai surtout eu l'impression que d'un point de vue éditorial, enfin, ne serait-ce que maquette, la maquette du bouquin a dû être, je sais pas, un casse-tête, un truc de malade. Les versions françaises reprennent les maquettes, parce qu'apparemment, Chris Ware, c'est lui qui s'occupe des publications chez Fantagraphics, c'est ça ?
Alors maintenant, il n'est plus chez Fantagraphics, il est chez, je crois que c'est Panthéon qui fait, puisqu'il y a eu un... En fait, il a quitté Fantagraphics parce que le distributeur de Fantagraphics avait osé mettre un autocollant code-barre sur ses bouquins.
D'accord. Tiens, ça me rappelle de l'actualité française, ça, ces histoires
voilà. D'autocollant code-barre. Mais juste pour te donner une idée, quand Chris Ware était chez Fantagraphics, Fantagraphics disait très clairement que eux ne voyaient le bouquin que quand il arrivait dans les étagères, hein, que c'était Chris Ware lui-même qui allait voir l'imprimeur, qui discutait avec l'imprimeur, qui gérait tout, il gère tout de A à Z.
Oui, donc c'est un maquettiste, quoi. C'est pas seulement un illustrateur, un auteur de BD, il fabrique le livre.
Il fabrique le livre complètement de A à Z, il a un contrôle, ce qui fait que les objets... En fait, je parlais de... Quand j'ai vu la question dans ton questionnaire, ça a été une évidence, parce qu'en fait, Acme Novelty Library, c'est la seule œuvre dans ma bibliothèque que j'ai en double, parce que j'ai à la fois les bouquins individuels et les recueils.
D'accord, parce qu'il y a un vrai travail différent entre les deux.
Voilà, les deux sont... Enfin, il y a des choses qui ne sont pas dans les recueils, il y a des... c'est juste... Et puis les objets sont tellement incroyables que... Bah, je ne pouvais pas me résoudre, je n'allais pas dire ah, bah, je balance ça parce que non, c'est inconcevable. Voilà.
Un vrai travail d'amoureux du livre. Tiens, on va essayer d'utiliser ça comme transition. Tu penses que ce genre d'approche-là pourrait se retrouver dans les nouveaux médias ? Est-ce que tu crois déjà en la BD sur Internet ou sur support numérique ?
Oui.
Ouais.
Oui. Oui. Moi, j'ai un iPad. Et j'ai lu beaucoup de choses sur iPad. Je fais pas de pub, hein, mais c'est vrai que j'ai été absolument conquis par l'objet. Et j'ai lu des bouquins. J'ai lu des articles. J'ai lu énormément de choses dessus. Le confort est absolument incroyable. Et je pense que à terme, il y aura beaucoup de choses. Alors tout, peut-être pas. Mais je sais que dans mes lectures, il y a 75 ou 80% qui sont des lectures que j'appelle Kleenex, sans que ce soit péjoratif, hein, mais quand je lis un bon polar, je ne suis pas forcément attaché, je prends du plaisir à lire le polar, mais je ne suis pas forcément attaché à l'objet derrière, je sais pas, je ne ressens pas le besoin de l'avoir dans une édition type la Pléiade, quoi.
Ouais.
Et une fois que je l'ai lu, je ne suis pas sûr que je vais le relire ou que je ne ressens pas forcément le besoin non plus de le mettre dans mon étagère, d'avoir une collection complète. Il y a des choses auxquelles je suis attaché, mais pas tout. Et quand je lis de la bande dessinée, il y a aussi pas mal de choses pour lesquelles, bon, bah, une fois que je les ai lues, ça devient plus du papier qui s'entasse dans ma bibliothèque. Tu vois, les Adachi, par exemple, j'apprécie les lire, mais c'est vrai que j'en ai des volumes et des volumes. Au bout d'un moment, si je les avais en version numérique, ça ne me poserait pas de problème. Donc, rien que pour un côté pratique, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles le numérique pourrait apporter. Moi, ma position vis-à-vis du numérique, elle est assez simple. Je pense que le numérique, il y a de l'avenir dans le numérique, c'est clair. Je pense que la manière dont les éditeurs s'y mettent aujourd'hui, elle est à chier. Il n'y a pas
Oui.
d'autre mot. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur faire du gadget, des machins animés, des machins avec du son, plutôt que de nous proposer un produit qui nous apporte vraiment quelque chose. Tu vois, bon, mais je vais vendre les blondes ou l'Enfeus de Troyes aux gens qui ont déjà acheté le L'Enfeus papier, sauf que je leur vends avec deux trucs animés en plus. Et moi, si j'ai déjà acheté les blondes en papier, je vois pas l'intérêt d'acheter la version numérique. Si j'achète la version numérique en plus dans les modalités qui sont celles aujourd'hui sur Isneo, je vois que les inconvénients, c'est-à-dire que j'ai pas la portabilité, je peux pas le regarder où je veux. Si c'est juste une location, si jamais ils arrêtent, je l'ai plus. Enfin, il y a plein d'interrogations sur le truc, plutôt que de nous faire valoir ce qu'il y a de mieux. Je donne souvent
Oui.
l'exemple d'Akira, par exemple. Pour moi, c'est l'exemple type d'une œuvre qui serait super en numérique, parce que Akira, il y a trois ou quatre versions qui existent. Il y a une version symétrisée, un sens de lecture occidentale, colorisée. Qui est paru, c'était qui est paru chez Glénat, c'est la première qu'on a découverte. Il y a une version en noir et blanc, sans... Oui.
Elle n'était pas parue en kiosque avant la version album les Akira, il me semble, en noir et blanc en kiosque.
Oui. Non, non, pas en kiosque, elle était en couleur.
Ah,
C'est
d'accord.
paru en 90. Moi, je les ai achetés au fur et à mesure. C'était la grande claque, la découverte du manga à ce moment-là.
Ouais, moi j'étais passé directement aux albums.
Là, en fait, ils ont fait la version comme ça. En fait, ils en ont publié 31 volumes, hein, enfin 31 petits fascicules. Et puis ensuite, il y a eu un grand trou avant qu'on ait la fin parce que le studio américain, c'était des traductions qui étaient faites à partir des versions américaines. Et la publication américaine que faisait Viz à l'époque s'était interrompue au même moment. Donc, on a été pendant 2-3 ans sans suite d'Akira parce qu'on n'avait pas la suite et il n'y avait pas de traducteur de
Je
japonais à...
me souviens, j'étais très dégoûté.
Voilà.
J'attendais ma fin d'Akira.
Et donc Akira, c'est typiquement le genre d'œuvre qui en numérique serait super parce que tu as la possibilité d'avoir la version colorisée sens occidental, la version noir et blanc sens japonais, les onomatopées retouchées à l'américaine avec l'hélicoptère qui fait Bouddha, 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 ou bien les onomatopées à la japonaise. Il y a aussi tout l'Akira Club, je sais pas si tu te souviens, il y a 14 volumes dans l'édition
Oui.
Glénat qu'ils avaient faite en japonais. Dans le dernier, tu avais l'artbook, mais l'artbook te montre comment il mettait en page certains trucs, tu as des crayonnés, ça tu peux le réintégrer dans le truc. Donc il y a vraiment la possibilité de faire une version améliorée pour le lecteur de bande dessinée et pas un truc de gimmick avec des machins
Ouais, une version
qui
avec bonus.
Voilà, une version qui apporte du sens et qui permet d'avoir vraiment accès
Ça
à... Voilà.
me fait penser à ce qu'ils ont fait avec les jeux Monkey Island qui sont réédités sur iPad. Et sur iPhone, avec la possibilité de switcher des anciens graphismes, des graphismes refaits à n'importe quel moment du jeu. Ce qui.
C'est ce genre de choses, moi, que j'attendrais de la part des éditeurs. Bon, après, qu'ils se bougent un peu plus et qu'ils mettent à disposition des choses qui soit intéressante. Tu vois, on a parlé beaucoup de patrimoine américain. Le patrimoine, on sait très bien que ça ne vend pas beaucoup. Il y a des choses qui sont intéressantes. Tu vois, les collections des magazines d'Espirou, tout ce que fait Marvel sur la réédition de leur patrimoine, tu sais, année par année, etc.
Oui.
C'est le genre de truc où je le rends en version numérique. Ce serait pas mal, quoi. Moi, je serais intéressé. J'ai récupéré le Phoenix, la saga du Phoenix, les Days of Future Past, les trucs comme ça, les vieux X-Men, ouais, que j'utilisais, auxquels je suis attaché pour des raisons sentimentales, et puis parce qu'il y a des choses qui sont bien dedans aussi, hein. Les sortir en numérique, ça ferait complètement sens, quoi. Voilà. Je trouve aujourd'hui les éditeurs, ils vont pas dans la bonne manière.
Je suis assez d'accord pour tout ce qui est livre en général, à part les éditeurs en livre, hein, de SF qui essayent apparemment de faire un peu des choses intelligentes. C'est un peu problématique. Maintenant, d'un autre côté, est-ce que tu crois que le numérique, les nouveaux supports vont amener quelque chose de nouveau dans la façon de lire et de concevoir les bandes dessinées? Donc je pense un peu à ce que disait McCloud dans Réinventer la bande dessinée. Ouais, dans Reinventing Comics, ou bien alors de ce qu'on voit maintenant, je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est les travaux de Balak et Malek qui sont amusés à essayer de faire de nouvelles formes entre guillemets de bande dessinée qui reste de la bande dessinée. Tu penses qu'on va aller vers ça, ou enfin que tu penses que ça a du potentiel, ou que c'est juste un truc qui est dans le vent parce que c'est nouveau et que on va vite passer à autre chose?
Je pense que c'est intéressant. Après, je pense que ça reste. J'ai bien peur que ça reste l'apanage de quelques bricoleurs qui vont s'amuser à jouer à ça dans leur coin, et que globalement, on va continuer à avoir ce qui est le truc dominant dans le blog. J'irais aujourd'hui, ce que le numérique, l'impact du numérique sur l'édition, c'est principalement l'avènement du strip comme une forme. Pour dans le cadre sur l'édition française, alors qu'on n'avait absolument aucune tradition de ça. T'as beaucoup de gens qui font du strip aujourd'hui parce que c'est un format qui paraît bien à l'écran et qu'on retrouve, ou bien du gag en une page parce que c'est le machin, donc parce que ça paraît, tu vois, même on reste sur des formes qui sont des formes très classiques parce que les mecs ils ont l'habitude d'écrire de dessiner sur des pages. Tu vois, même quelqu'un comme Boulet par exemple dessine sur la page et il scanne ça ensuite, quoi, et c'est normal. Et c'est assez marrant parce que j'avais fait un truc là-dessus, hein, justement, en me disant, je suis un peu emmerdé parce que au niveau de la créativité, au niveau de la bande dessinée, c'est un texte que j'avais fait il y a 2-3 ans, moi, j'ai rien vu de nouveau depuis Demian 5 et When I Am King, qui est un vieux truc qui date du 2000 ou 2001, dans lequel il y a toutes les utilisations de ce dont McCloud parle, la possibilité d'utiliser la page infinie, ça joue avec les ascenseurs, il y a des gifs animés, des trucs comme ça, c'est assez incroyable. Vraiment, je conseille de digiter un œil, c'est toujours en ligne, ça reste toujours aussi génial, mais il n'y a rien de nouveau. Et lorsque j'ai fait un texte comme ça, j'ai eu tous les gens de la brouette Vendry en tête qui me sont tombés dessus en me disant, ouais, mais tu comprends pas, d'une part t'as l'air de dire que les mecs ils font du prêt à publier parce qu'ils veulent faire de la thune, c'est mal, ils ont le droit de vivre aussi. Bon, j'ai pas dit que c'était un problème, mais c'est eux qui ont un problème de, enfin, c'est juste, moi je trouvais dommage qu'on n'avait pas cherché plus de trucs. Et puis on me disait, ouais, mais tu sais, faire du flash c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais dans ce cas, reconnaissez que vous faites de la page, vous utilisez les outils qui sont simples. Mais effectivement, faire du flash, c'est compliqué. Ce que fait Balak, qui est intéressant, reste quand même l'apanage de quelques personnes très limitées, de bricoleurs. Et même s'il y a des trucs vraiment intéressants dessus, je pense que la bande dessinée va rester déjà dans la forme qui est aujourd'hui, c'est pas évident de faire une bonne bande dessinée déjà. Donc, avant de mettre de se lancer dans un nouveau niveau de complexité qui est l'aspect numérique, il y a peut-être déjà beaucoup à faire avec ce qui est disponible.
Ouais, même la page infinie, qui pourtant est quelque chose de facile à mettre en place.
Jusqu'à maintenant, tu vois, en termes de j'ai pas vu de truc délirant en termes de fonctionnement, quoi. Je sais pas, la page infinie, Moi, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, ce sur quoi joue Balak, qui est en fait de prendre la zone de la page comme étant un espace, une sorte de scène de théâtre sur laquelle tu peux jouer avec une sorte d'immanence, d'image à image. Je sais pas comment. Ça m'avait marqué lorsqu'il y a Loïc de Villiers qui a fait un bouquin aux éditions Charrette qui s'appelle Le Village, je crois, mais qui était disponible soit en version limitée, il y avait 120 exemplaires, mais il mettait aussi à disposition des PDF. Et en fait, c'est des choses qui se passent sur une place de village. Et quand tu regardes le PDF, quand tu lis le PDF à l'écran, tu fais défiler les pages. Et en fait, comme l'image, ça apparaît toujours, ça fait une sorte de dessin animé au fur et à mesure. Alors, le but, c'est pas de faire du dessin animé, mais disons que finalement, l'espace où s'affiche ta case est toujours le même, hein, physiquement, peut créer des choses vraiment intéressantes qui apparaissent pas forcément sur l'objet physique à la base. Voilà.
D'accord. Tu m'as cité en BD Online que tu suivais le blog de Boulet, mais bon, tout le monde suit le blog de Boulet. Lisez le blog de Boulet, c'est bien. Mais on va parler plutôt de quelque chose d'un peu moins connu, qui est The Perry Bible Fellowship de Nicolas Gurevitch. Qui est justement du strip. Et qu'est-ce que c'est que ce Perry Bible Fellowship? La compagnie de la Bible de Perry? Je traduirai
Oui,
vaguement.
alors ouais, je sais pas trop à quoi le titre fait référence. Il y a eu un recueil qui a été publié qui s'appelait The Adventures of Captain je sais plus quoi. Et c'est juste des jeux de mots visuels, c'est des strips complètement nonsense, enfin c'est vraiment unique comme truc. Alors en ce moment il en fait un tous les 2 ans ou pas loin. Il y a quelque chose comme 80 ou 90 strips qui sont toujours disponibles sur son site. Et c'est vraiment incroyable de la manière dont ça fonctionne. C'est vraiment sur des choses qui sont ouais, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Il faut aller voir. En plus, c'est fait avec un dessin toujours très léché, très très appliqué.
Très
Et
varié.
voilà, c'est très varié. Parfois, il faut le lire 3 fois avant de comprendre où il veut en venir. Mais c'est chaque fois drôle, surprenant, inattendu, surréaliste. C'est vraiment unique pour le coup. Par
Ouais,
rapport à
puis.
une scène, par rapport à une scène de strip ou de webcomic qui vont tourner un petit peu toujours dans le même genre. Tu as le truc avec les nerds un petit peu hip, type bon, ça me fait penser à Questionable Contents. J'en ai vu d'autres, hein, mais dans lesquels les mecs sont là, discutent, ont un cactus parlant ou bien un iPod qui parle comme pète, et puis de sortent les bonnes répliques les uns les autres, ou bien le truc tranche de vie. Enfin, il y a quand même pas mal de typologies qui ressortent, les trucs sur le jeu vidéo, que ce soit Penny Arcade, PVP ou autre. Ben là, on a quelque chose qui ressemble à rien, qui ressemble à rien d'autre, qui est vraiment unique et qui est dans sa bulle tout seul, qui est vraiment exceptionnel.
Moi, j'ai été surtout surpris par justement cette variété graphique où il passe de dessins parfois assez réalistes, assez léchés, et avec des dessins beaucoup plus simplistes, avec ces bonhommes à la tête, on va dire, enfin, avec un visage hyper simplifié, tout rond, tout blanc et l'air vide en fait. J'ai été surpris de voir qu'il s'attachait à aucun style en particulier et qui variait vraiment en fonction de ce qu'il voulait raconter.
C'est dommage qu'il n'en fasse pas plus. Après, bon, en même temps, c'est peut-être là que reste la qualité dans la rareté.
D'accord. On va finir par notre dernière petite rubrique. C'est nos questions à la con. C'est tout bête. Bah, si t'as écouté l'émission avec Fabrice Sapolsky, tu sais que bah c'est deux questions, deux mots. Tu en choisis un. Tu réponds très rapidement et puis tu peux t'étaler dessus si tu le veux ou pas. Ça touche des sujets plus ou moins variés, peut-être même que tu comprendras pas la question, on verra. C'est les mêmes pour tous nos invités, donc. Hergé ou Franquin?
Franquin. Franquin, même si c'est une grosse trahison parce que mon père m'a offert tous les Tintins lors de mon 6e anniversaire et mon père est un tintinophile endurci. Mais Franquin pour Gaston. Et
D'accord.
pour le premier Spirou aussi.
One shot ou saga?
Plutôt saga.
Xbox ou Wii?
Box.
Batman ou Superman?
Ah, Batman, justement. Merci. Entre autres.
Clip ou caleçon?
Caleçon.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe?
Noir et blanc pas cher. Parce que le manga, par exemple, est en noir et blanc pas cher, même certains comics, ça pose pas de problème. Ce qui est important, c'est de lire.
D'accord. À moteur ou à plume?
Je ne sais pas si c'est un être redondant.
Voilà, c'est une autre question surréaliste, c'est tout. Soleil ou l'association?
L'association, pas trop difficile.
Trondheim ou Larsenet?
Trondheim, mais pour les débuts, surtout.
Protos ou Zerg?
Protos.
Donald ou Howard the Duck?
Je vais dire Donald parce qu'il y a Fantagraphique qui sort en intégrale et ça me j'ai envie de redécouvrir le personnage.
Blonde ou brune?
Blonde.
Jonah Jameson ou Jenna Jameson?
Ah. Le choix est dur.
Ouais, c'est difficile.
Non, Jonah Jameson parce que. Je vais prendre la moustache avec Jonah
D'accord.
Jameson parce que non, beaucoup d'avis. Oui, Spider-Man a été un personnage que j'ai pas apprécié.
Blur ou Oasis?
Blur. Blur, très clairement Blur.
Thé ou café?
Café, sans café on fonctionne pas.
Toriyama ou Otomo?
Toriyama. Toriyama parce que j'ai découvert très tardivement Dr. Slump. Et Dr. Slump me fait mourir de rire. Otomo était une grande claque, mais je crois que Toriyama, je relirai avec beaucoup de plaisir Toriyama, Otomo moins souvent.
Bière ou pastis?
Bière, je déteste le pastis.
Atari ou Amiga?
Atari. C'était le hasard. Hein.
Ah, c'était le hasard, zut, parce que pour le moment, c'est Atari. C'est...
Ouais, j'ai eu un 512, c'était Atari. Alors que beaucoup de gens autour de moi avaient des Amiga.
Ce qui est très marrant, c'est qu'il faut croire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majorité des gens que j'ai interviewés étaient Atari. On pourrait croire que dans des milieux de gens qui aiment les graphismes, etc., ça aurait été plus de l'Amiga. C'est surprenant. Et on va finir avec numérique ou traditionnel?
Oh, numérique, hein. Numérique du neuf et a la chance d'être apparu au moment où on était dans l'ère numérique. Je pense que c'est une grande chance et on n'aurait jamais pu faire ce qu'on peut faire et devenir la petite place qu'on peut avoir sans l'aspect numérique. C'est vraiment, moi, je vois que du bénéfice à ça. Voilà.
Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, c'était mon cas. J'espère que nos auditeurs aussi, surtout pour ceux qui, malgré la qualité du son, pas forcément au top, ont tenu jusqu'ici. Xavier...
C'est ma connexion qui merde. C'est ma
ouais.
faute.
Ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est ça, hein, la DSL pour tous, tes super connexions, mais bon...
Voilà.
C'est le futur, tout ça. Je rappelle qu'on peut te trouver donc sur duneuf.org avec une parution de trois articles
tous les vendredis.
Tous les vendredis, voilà. Est-ce qu'on peut te trouver ailleurs sur le net?
Les gens qui veulent... C'est un bon départ.
C'est un bon
Après,
départ.
Voilà. Après, je participe à deux, trois forums, donc, mais voilà, principalement duneuf.
Ok, je vous invite à lire, je n'ai pas encore fini, mais pour le moment, c'est super intéressant, le super article sur Comicalité. C'est super documenté, c'est bourré de références, moi je trouve ça génial, ce genre d'article-là. Merci d'avoir participé à l'émission. On se retrouve normalement très très bientôt pour une émission normale où Thio sera présent. Nous, on est toujours sur lavoixdesbulles.fr avec... un Twitter, un Facebook, un Google Plus, on est un peu partout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur iTunes, sur Facebook ou sur le blog. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à bientôt. Merci encore Xavier. Ciao.
Merci, ciao.
C'est bien, je pense que j'ai un superbe bruitage pour un monstre dans un film d'horreur. Là.